Un quart d'heure en Palestine.
Un quart d'heure en Palestine en direct de Paris. Paris en Palestine, on va dire, avec notre camarade, l'infatigable militante, dirigeante de cette association qui s'appelle Euro-Palestine et que vous connaissez, nous l'espérons en tout cas, vu le travail qui est fait depuis des années par cette association. Olivia, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Sam, bonsoir à tous vos auditeurs.
Alors, on a l'impression qu'on est dans un monde qui... Alors, ils aiment bien dire, hein, un monde qui change.
Hein, et il change, oui.
Oui, oui, bah oui, il change. Et ce qui change, ce qu'on voit, c'est que au plus ça va, au plus il y a des choses qui sont passées sous silence. Et notamment la situation des Palestiniens. Or, il se passe beaucoup de choses. Moi, j'ai reçu un mail d'un camarade qu'on connaît bien ici, hein, un Gazaoui qui s'appelle Ziad Medour, qui nous disait qu'il y avait eu des raids, comme on dit, israéliens sur Gaza il y a quelques jours. Tu en sais sans doute plus que nous, Olivia. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe à Gaza en ce moment ?
Oui, c'est extrêmement grave et effectivement passé sous silence. On a un peu d'informations assez régulièrement en provenance de Jérusalem et de la Cisjordanie parce que il y a les colons qui agressent, il y a de la résistance, il y a des comités populaires, il y a des manifestations, il y a des gens qui sont emprisonnés, qui font des grèves de la faim, il y a toute une série d'Israéliens qui vont régulièrement faire des provocations à l'intérieur de la mosquée et la ça et qui font leur rituel juif à l'intérieur sur la demande et les conseils de Netanyahou et autres Miri Regev. Donc on a, si tu veux, on est un petit peu alimenté en information de ce côté-là. En revanche, il n'y a rien qui sort, en gros, de Gaza, parce que Gaza, c'est un camp de concentration, et fermé de toutes parts, donc tu ne peux pas y aller, les gens qui t'écoutent ne peuvent pas y rentrer, eux ne peuvent pas sortir, donc c'est extrêmement difficile pour eux de raconter. Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter, sinon que c'est de plus en plus catastrophique. C'est-à-dire que tu as 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, avec une majorité de gens qui sont des mineurs sur ces 2 millions, qui ont un siège de plus en plus inhumain, dans le sens où Israël a bombardé et détruit leur centrale électrique en 2014, et que donc ils sont dépendent du coup des fournitures qui ne sont pas gratuites, qui sont payantes, d'électricité et de gaz de Israël, qui les réduit de plus en plus. Donc à l'heure actuelle, ils en sont à vivre avec 2 à 3 heures par jour d'électricité, et je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent compte de ce que ça peut vouloir dire si on n'a que 2 à 3 heures d'électricité par 24 heures, sans même savoir d'ailleurs à quel moment on va les avoir. C'est-à-dire que le frigo ne marche que 2 à 3 heures. Pareil pour tous les appareils électriques. Donc les familles sont complètement sur le qui-vive. Ils ne dorment plus parce que ça peut arriver à 3 heures du matin que tout d'un coup on a ces 2 heures ou 3 heures d'électricité. Alors là, tout le monde s'y met, recharge toutes les batteries, met en route la machine à laver le linge. Enfin, je veux dire, c'est de la folie. Les gens se promènent partout avec leur chargeur en permanence, et comme le gaz, la fourniture en gaz a été aussi, le gaz de cuisine hein, a été diminué également par 2, faire à manger, c'est devenu vraiment quelque chose de... Alors, sans électricité, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que il y a un génocide à petit feu, parce que tous les malades, que ce soit des bébés en couveuse, que ce soit des dialysés qui sont branchés à des appareils qui marchent dans les hôpitaux et autres avec des générateurs qui n'ont plus d'essence, qui donc tombent en panne, meurent et personne n'en parle. C'est ce qu'on appelle un génocide à petit feu. Les patients atteints de cancer n'ont plus de chimiothérapie depuis très longtemps, elle n'est plus disponible. Donc quand Israël voulait bien les laisser passer pour aller se faire soigner en Israël, ils avaient une petite chance de survivre. Maintenant, ils ont arrêté de donner des permis, y compris à des gens qui sont en phase terminale. Donc voilà, sauf
mais,
ceux qui
Olivia,
veulent bien.
Je t'arrête tout de suite, parce que là, tu parles de génocide. Est-ce qu'il y a une volonté d'Israël?
Bien sûr qu'il y a une volonté de
génocide. Mais c'est quoi?
Ils l'ont dit.
Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont déjà dit à plusieurs reprises, non seulement avec les bombardements qui ont fait des milliers de morts parmi les civils à plusieurs reprises, et des handicapés, et des malformations avec les bombes au phosphore, etc., qui voulaient faire régresser cette population et la renvoyer au Moyen-Âge. La punir de quoi, tu peux te poser la question, d'avoir élu le Hamas démocratiquement en 2006, mais je signale que le Hamas a eu la majorité, pas spécialement à Gaza, il a même eu plus de voix en Cisjordanie, donc je veux dire, voilà, mais le Hamas n'a pas voulu céder le pouvoir qu'il avait eu par les urnes en 2006, après avoir été élu. Donc il y a une punition collective de l'ensemble de la population. Donc ce génocide, si on ne ferme pas les yeux, il est patent. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tu as par exemple 320 personnes recensées à Gaza qui sont atteintes de mucoviscidose. La mucoviscidose, il faut prendre un comprimé, il faut prendre régulièrement des comprimés, ça s'appelle Criant, il en faut 40 000 pour les 320 malades pour un traitement. Eh bien, ils n'en ont plus un seul et ils sont en train de mourir sans que personne n'en parle. Tous les malades de mucoviscidose, et t'appelles ça comment? Je veux dire, ils le savent, je veux dire, c'est eux qui ne laissent pas passer ces médicaments, c'est eux qui ne laissent pas passer les pièces de rechange pour les appareils de radiologie qui tombent en panne. C'est quoi, je veux dire, c'est pour la sécurité d'Israël, les comprimés de mucoviscidose ne peuvent pas arriver, c'est quelque chose de délibéré, bien entendu, puisque ça ne peut passer que par eux. Alors, l'Égypte, jusqu'à présent, avec le dictateur Sisi, a accompagné le mouvement et a accepté donc les requêtes israéliennes de bloquer de leur côté aussi, c'est-à-dire du côté égyptien, donc en collaboration avec Israël, comme ça c'était bien bloqué de partout. Mais qui est-ce qui, occupe en permanence non seulement les frontières du côté Israël, mais tout l'espace aérien, les eaux de Gaza où les pêcheurs ne peuvent plus aller pêcher et où ils ont encore tué un pêcheur la semaine dernière, et régulièrement ils en blessent, ils leur confisquent leurs petites embarcations, et même quand ils pêchent à moins de 3 miles du bord. Donc je veux dire, les agriculteurs, les terres les plus fertiles de Gaza, et Gaza c'est un tout petit territoire, hein, ouais. C'est pas plus grand que l'île de Ré, pour donner une comparaison en superficie, c'est tout petit. Les terres les plus fertiles, les plus arables, se trouvent être justement celles qu'ils ont confisquées en disant ça va servir de zone tampon et vous n'avez pas intérêt à vous en approcher. Donc tu as 44% de gens qui sont au chômage. Et ça, c'est terrible. Donc, ils sont terriblement appauvris. Ceux qui ont un salaire, ce salaire a été diminué de moitié. Et pareil pour les retraites. Donc, ils vivent avec souvent un salaire entre 200 et 300 euros par mois, un seul pour toute la famille. Et la famille, il faut payer normalement des études, des soins, etc. Donc, voilà, on a les cas.
C'est un siège dont tu nous parles là, hein. C'est un siège
Qu'on appelle ça siège ou blocus, je veux dire que c'est vraiment, moi j'appelle ça un camp de concentration. Quand tu concentres 2 millions de personnes, que tu les empêches d'entrer, que plus personne de sortir, que plus personne peut entrer, que tu les prives d'eau potable, ce qui est le cas, il n'y a plus d'eau potable à Gaza,
de médicaments,
d'électricité, de gaz, de médicaments, et qui ne peuvent pas aller se faire soigner ailleurs, ça s'appelle comment? Ça s'appelle
et
comment,
en plus on les bombarde.
Et en plus, régulièrement, on les bombarde.
Alors, c'est quoi les raisons objectives? Enfin, les raisons pas objectives, mais les raisons qu'ils donnent.
Est-ce que tu as déjà vu Israël avoir besoin de se justifier? À partir du moment où il n'y a pas de sanctions, Israël fait exactement ce qui lui plaît.
Qu'est-ce qu'ils ont bombardé, là, hier, avant-hier?
Je veux dire qu'ils ont dit... Ils ont dit qu'il y avait eu des roquettes.
Tirs de roquettes, oui. Ouais.
Voilà, qu'il y avait eu des tirs de roquettes, mais le Hamas dément et dit que ce sont des fausses revendications fabriquées par Israël et que eux, depuis le cessez-le-feu intervenu après les bombardements de l'été 2014, n'ont jamais envoyé de roquettes. Donc, en général, le Hamas, quand il en envoie, il les revendique. Et s'il dit on n'en a pas envoyé, c'est juste un prétexte pour Israël pour que, quand la communauté internationale, comme on dit, lui demande des explications, elle dise « Ah ben, c'est en représailles de roquettes qu'on a reçues. Il n'y a pas de roquettes, il n'y a pas de... » Voilà. Donc, ceci est vraiment très, 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 très grave. Il y a eu hier, en 24 heures, 3 bébés qui sont morts parce qu'ils n'étaient plus branchés, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Je ne sais pas si les gens se rendent compte.
Non.
Parce que
non.
Gaza est sorti des radars, a disparu des écrans.
Mais alors, tout est sorti des radars. Tout est sorti des radars, Olivier.
On peut dire, même si on nous raconte un peu l'histoire à l'envers, on peut dire, on parle de la Syrie, on parle des réfugiés, on parle des attentats. Mais Gaza, je veux dire, Israël en a profité pour qu'on ne parle plus de Gaza. Et loin des yeux, loin du cœur, puisqu'il n'y a pas d'informations qui arrivent, parce qu'est-ce qu'ils peuvent dire les Gazaouis, sinon c'est pire de jour en jour, il y a des gens, le taux de suicide
mais
a augmenté.
Mais il n'y a plus de journalistes sur place, au fait. Il n'y a pas de journalistes de France 2, France Inter.
Il y a un peu de journalistes, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils racontent? Que les gens meurent de plus en plus, ils le disent, qu'il y en a 80% maintenant de la population qui dépend de l'aide humanitaire, aide humanitaire qui a baissé, mais ça te fait quoi comme vidéo des gens en train de mourir? Je veux dire, tu vois, je veux dire, c'est pas un bombardement, tu prends des photos, des images, mais bon, là, par exemple, les gens, y a un gars, je veux dire, là, je voyais le témoignage, justement, de journalistes qui racontaient le cas d'un gars de 28 ans, il travaille, il est chauffeur de taxi, il a 28 ans, il n'a plus du tout de dents, il n'a pas les moyens de s'acheter ni un dentier, ni de se faire soigner les dents, parce qu'il n'a pas assez d'argent, sa voiture, son taxi ne lui appartient pas, et il gagne une misère, 6 euros, l'équivalent de 6 euros par jour, il ne peut pas se faire soigner les dents, il a une famille, il a des enfants, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne peut pas manger, il ne mange que de la bouillie. Je veux dire, et c'est déjà bien parce qu'il y en a qui n'ont pas plus de bouillie. Donc, je veux dire, c'est... Voilà, est-ce que ça, c'est de l'info qu'on donne aux 20 heures?
Bah, je sais pas, ça dépend des pays.
Non, tu le vois pas, non.
Ça dépend des pays, des fois.
Non, les médias étant ce qu'ils sont, je veux dire, on va te parler de telles catastrophes naturelles. Oui, il y a eu un tsunami, la sécheresse a fait ça, mais une catastrophe humanitaire liée à une décision politique...
Ah, bah c'est ça qui m'intéresse.
D'un État qu'on considère comme notre allié,
qu'on présente
comme civilisé, moderne, démocratique, qui est en fait un des États les plus terroristes au monde, et d'ailleurs un État allié à Daesh et qui finance
Daesh. On va en reparler,
Je veux dire, tant qu'il n'y a pas de sanctions, on le sait très bien, Gaza, c'est comme la colonisation qui se développe, c'est comme les maisons qu'on démolit, c'est comme la torture des enfants. Est-ce que tu trouves qu'on en parle à la télévision? Non, ça, on ne le montre pas. Je veux dire, ça ne fait pas l'information.
Et puis,
ça continuera tant qu'il n'y aura pas de sanctions.
On pourrait parler du Yémen aussi, puisqu'on y est, mais on ne peut pas tout dire ce soir. Olivia, si on t'écoute là, on voit bien une situation humanitaire gravissime.
Très très grave.
Très très.
On n'arrête pas de dire plus jamais ça. On fera pas des camps de concentration, des machins. Je veux dire, on en a un sous le nez.
Mais c'est quoi le but politique derrière? C'est quoi? Parce que voilà, après les gens vont s'imaginer plein de choses. On va avoir des visions complotistes. Mais c'est quoi le
vision complotiste? Je veux dire,
je
c'est
sais
la
pas,
réalité des faits. Tu parles de Ziad Medouk. Regarde ce qu'il te raconte et regarde les gens là-bas. Ce qu'ils te disent, pourquoi ils veulent qu'ils... Mais d'ailleurs, Israël ne dit pas le contraire. Israël dit maintenant, c'est la faute à l'autorité palestinienne, parce que l'autorité palestinienne, qui est en bagarre contre le Hamas et qui voudrait que le Hamas soit sur un siège éjectable, veut le pousser dans ses retranchements et a dit qu'il arrêterait de payer à Israël la facture d'électricité pour... Je signale déjà que dans les conventions de Genève, c'est à la puissance occupante d'assurer le bien-être de la population qu'elle occupe, pour commencer. Donc, l'autorité palestinienne joue un jeu extrêmement grave et assez minable dans cette affaire, parce que c'est les Gazaouis qui sont pris en otage, mais qui je veux dire, maintient ce blocus fermé qui empêche les gens d'obtenir les médicaments, de sortir.
Dans quel but, au fond, dans quel but je ne veux pas, j'allais dire une connerie, la solution finale, mais quel est le but final d'Israël ? Qu'est-ce qu'il cherche ?
Israël veut que les Palestiniens décident d'abandonner leurs terres, qu'ils aillent en Égypte, qu'ils aillent en Jordanie, qu'ils aillent au Liban, il y a déjà des camps en Jordanie, qu'ils aillent en Irak, où, comme on le sait, la situation est extraordinaire après le chaos qu'on y a mis.
En Syrie.
Ça ne manque pas, n'est-ce pas, de pays arabes. Pourquoi ils vont rester chez nous ? Et du coup, démographiquement, nous qui voulons faire un État juif avec des lois pour et des privilèges uniquement pour les juifs, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas et nous voulons les chasser. Donc aussi bien torturer leurs enfants, les tuer, démolir leurs maisons, arracher leurs oliviers, que de les maintenir dans un camp de concentration, ça fait partie de la punition, du fait d'exister, de continuer à dire « mais je suis désolé, c'est ma terre, je suis palestinien, j'en partirai pas ». On a réussi à en faire partir, Israël a réussi à en faire partir quelques 700 à 800 000 en 48, puis ensuite environ 200 à 300 000 en 1967. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à faire des départs massifs. Et elle voit que les Palestiniens continuent à faire des enfants et que ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Que Ben Gourion disait les plus vieux mourront et les plus jeunes oublieront. Les plus vieux, oui, ils sont morts, mais les plus jeunes, ils n'ont pas oublié. Et c'est ça le problème d'Israël, c'est de ne pas vouloir que cette terre, tout le monde vive dessus avec les mêmes droits. Donc, quand tu ne veux pas et que tu veux, alors là, ils ont l'apartheid, mais l'apartheid, c'est pas terrible quand ça va quand si tu es avec une population indigène qui est pas trop nombreuse. Mais comme pour l'Afrique du Sud, quand cette population, elle dépasse la population l'oppresseur, je veux dire celui qui veut garder les privilèges pour lui, ça n'est pas viable. Ça n'est pas viable. Donc, je veux dire, Israël ne sait plus comment se débarrasser d'eux et voudrait qu'il y ait un moment où, il y aura d'autres massacres et que, à force de les déshumaniser, de faire qu'on n'y pense plus, de s'habituer à l'idée que, c'est triste, ça se passe là-bas, mais on a déjà nos malheurs ici, n'est-ce pas, et tout ce que tu veux, et à penser, à les présenter comme des terroristes, c'est-à-dire, vous voyez, les attentats que vous avez chez vous, nous, on vit la même chose, etc., alors que c'est Israël qui joue le rôle du terroriste, c'est de pouvoir s'en débarrasser avec des massacres encore plus importants et des déportations et des transferts de population. C'est ça le but.
Ouais, il faut absolument qu'on agisse. Est-ce que tu sens, toi, avec ton expérience militante, est-ce que tu sens, dans notre pays, ici à nous, là, la Macronie, est-ce que tu sens qu'il y a une sensibilité toujours à... Ça, c'est des choses qui arrivent, ça, de plus en plus.
C'est toujours l'heure de le mettre et toujours le quart d'heure en Palestine. Et donc, le quart d'heure en Palestine est toujours avec Olivia Zemmour au bout du fil.
Ouais, on la retrouve tout de suite. On va devoir abréger un petit peu parce que les conditions techniques ne sont pas les mêmes. On ne sait pas pourquoi il y a des coupures comme ça. Hein. Olivia, je suis en train de poser la question. Est-ce que tu sens dans notre pays une sensibilité par rapport à cette question palestinienne, ou est-ce qu'on est dans un creux, comme pour le reste ?
Franchement, dans le monde entier, que la sensibilité est liée, que les informations, les gens ne les ont pas toujours, parce qu'il faut être un peu branché pour les trouver. Comme je te disais, on ne les trouve pas dans les grands médias, mais qu'à chaque fois que les gens sont au courant, les gens se demandent ce qu'ils peuvent faire. Et donc, notre réponse, c'est bien entendu, d'une part, mettre la pression.
Ah bah dis donc, c'est incroyable, c'est une comment une malédiction, c'est, une malédiction, ouais, parce que là c'est
non,
plus
la technique la technique c'est un truc.
Je te jure qu'on voit les non c'est pas la technique là, c'est la on sent bien qu'on est passé dans un pays différent, hein, un petit peu. T'es là, ah, t'es encore là, c'est incroyable hein.
Oui, s'il se passe des trucs
bizarres. Ah, c'est un truc de fou parce que moi j'ai rien fait.
Je ne sais pas pourquoi ça. Voilà, qui est-ce qui nous coupe, mais c'est clair que peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde ce qu'on est en train de dire, mais en tout cas, j'étais moi en train de te rassurer pour te dire que oui, les gens majoritairement sont indignés par ce qui se passe et à partir du moment où ils le savent, je veux dire, ils essayent de voir ce qu'ils peuvent faire, et la réponse à qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est le boycott, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud de l'apartheid, et il grandit, et que à tel point que bon, Israël consacre des millions et des milliards à essayer de juguler cette campagne de boycott qui ne se voit pas beaucoup en France parce que on n'a pas de personnalité connue qui monte au créneau, on n'a pas dans les universités, on n'a pas, je dirais, des gens qui virent les conférenciers israéliens qui viennent parler. Il n'y a pas, comme là il vient d'y avoir, je ne sais pas si tu as vu, le syndicat, la Confédération Générale des syndicats en Norvège qui a voté pour le boycott, c'est 1 million de personnes, 1 million de personnes, c'est-à-dire pour le pays une personne sur 5, quoi, je veux dire. Donc il y a un phénomène de boycott grandissant, même si tu veux, on voit même au niveau, par exemple, ils ont fait beaucoup pour essayer d'améliorer l'image d'Israël auprès des homosexuels, des gays, auprès de beaucoup de gens avec la culture, les films, etc. Et ça prend de moins en moins. Les homosexuels eux-mêmes commencent à dire que c'est assez pitoyable ce qui se fait à Tel Aviv et que là aussi c'est pas la fête pour tout le monde. Et ça dépend de quelle ethnie tu es, si tu es blanc, si tu es comme ci, comme ça, etc. Donc voilà, ils essayent pourtant de plus en plus de faire oublier ce qu'ils font comme massacre et comme atrocité en essayant de parler culture, de parler etc. Mais ça passe de plus en plus mal. Donc ils ont je veux dire, en France, on essaye de faire croire aux gens, par exemple, que appeler au boycott d'Israël est illégal, alors que c'est complètement faux. Nous n'arrêtons pas, et nous sommes par exemple 170 000 personnes aujourd'hui en France à même avoir mis une vignette sur notre carte vitale. T'es toujours là ?
Ouais, je suis là, bien sûr. T'écoute, t'inquiète pas, tu passes. Là, tu passes.
D'avoir mis une vignette sur notre carte vitale pour indiquer à tous les pharmaciens qu'ils ne donnent pas des génériques de la marque Teva.
Ah,
ça devient difficile de faire des radios.
Ouais, ça devient incroyable. Hein. On vit dans un drôle de pays. On va conclure à la place d'Olivia. On va pas insister, mais on voit bien que finalement, ceux qui nous coupent. Parce que là, on peut le dire, hein, on a toujours eu des petits incidents comme ça sur cette antenne, notamment et surtout lorsqu'il s'agissait du quart d'heure en Palestine.
Ah bah oui, c'est
et même uniquement lorsqu'il s'agissait du quart d'heure en Palestine.
Ça fait beaucoup quand même. Ouais, là, c'est gros, là.
Non, on avait des petits doutes sur des questions techniques ou quoi, mais là, c'est évident.
Il y a eu un temps où vous étiez plus discret.
Voilà. Il y a aussi un contexte régional dont on voulait parler avec Olivia, mais bon, on n'en parlera pas. C'est que quand même, elle l'a dit, Israël a soutenu, et maintenant les informations sont sorties officiellement, hein, enfin plus ou moins officiellement, mais New York Times, etc., c'est quand même du sérieux. Hein, Israël est bien aux côtés de Daesh et de Al-Qaïda en Syrie. Et il y a des recompositions. Le Hamas, qui était au départ plutôt anti-Assad, a bien compris finalement son intérêt de l'intérêt palestinien finalement, hein, et s'est rapproché de l'Iran. Il y a vraiment un axe aujourd'hui qui se joue entre l'Iran, le Hezbollah, la Russie, la Syrie, la Chine d'un côté, si on veut voir large, et de l'autre côté, eh bien, les impérialistes de plus en plus violents, agressifs, les États-Unis, l'Europe, la France en premier lieu. Alors c'est moi qui vais être coupé maintenant. Et derrière, eh bien, tout ce qui se joue en ce moment entre Arabie Saoudite, Qatar, etc., etc. On va juste envoyer à Olivia un petit message privé, Ali, avant de passer à la rubrique cassette. Un SMS. On va lui dire quoi alors, au nom de nos auditeurs. On a conclu sans toi. On a conclu sans toi. Vas-y, dis-moi ce que j'écris après. On a conclu sans toi. Les coupures en disent plus, finalement. Les coupures en disent...
On dit plus que les mots.
En disent plus... On disent plus que... Bon, on peut peut-être passer de la musique pendant que j'écris des SMS, Ali. Merde. On disent beaucoup.
Pour la transparence, nos auditeurs ont le droit de savoir ce que tu vas envoyer comme SMS à Olivia Zemmour, donc d'Europalestine, que nous avions lors de ce quart d'heure en Palestine un petit peu perturbé.
Normal, quoi. C'est-à-dire, quoi. Et on peut rappeler aussi qu'on a été les premiers, on n'a pas eu le temps de lui dire, à propos de la campagne de boycott des investissements sanctions, on a été les premiers en France, il y a une dizaine d'années, à donner la parole à cette campagne. نفس اليوم ما في اي اشي جديد الزمن واقف عندنا حيط غزة بالتحديد احكي عن الناس اللي هم منا احنا هم جمعنا الهم وصحبنا والهم صحبنا الواقع اللي نعيش فيه صعب ومرة مين يصير كلاسلك انسان ما كدور شو الناس متحك مهدي زمام الامور دوري يا دوار دوري ما غيرت الامور اجال بعاني هنا مسطة طالع شارع من شوارع الفران نابع ساكت ضلك ساكت ثابت انا هنا ثابت غزة انا مش دور شو كيف الفاخر بينا انا مفاوضة شد نبعد عنه ما ظنيت انا مخيمات جغر هيك مش شايف انا اخويا اخويا اسمعني اخويا اخويا اذهبني اخويا اخويا احترمني اخويا اخويا ايوه موفه هيك موفه كون فو موا موفه ريسبكت موا موفه طول مو اروح اسمع كلامي تعرف عنواني في عقلي على الوقت زمان راح قراني كلمة طحيني عندك اعطيني كلمة ديدني كلامي فني وفني نهرو كوميدي تحاول تضحك شوف فيلم هندي والله هنيدي تحوس على الصح روح تلقاها عندي شمع الحرب من غير ما يتشكل من اللي بيرضى شوف مصير اخوي يتكبل بين الماضي الحاضر اليوم او المستقبل فكرك الدم بيرقص يا محمد اخوي بسؤالي تعلل كثير الكلام بس الفعل اللي يحكي عن الندم ما تسأل عن اخوة بفكر كلمة صدق بقول وبصحي كل اناني كل منبع ما ينسى معنى الاخوة بالاسلامي اخويا اخويا اسمعني اخويا اخويا اذهبني اخويا اخويا احترمني اخويا اخويا ايوه موفه هيك كنت موا موفه كون فو موا موفه ريسبكت موا موفه طول مو اخويا اخويا اسمعني اخويا اخويا اذهبني اخويا اخويا احترمني اخويا اخويا ايوه موفه هيك كنت موا موفه Coming to...